France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Jean-Marc Louisada. Je suis né, il y a fort longtemps, dans une ville portuaire en Tunisie, à Bizerte. Et je suis pianiste. Bon, nobody's perfect.
Après une petite enfance très ouatée et protégée, Jean-Marc Louisada quitte à 12 ans le cocon familial pour l'Angleterre. Une expérience de la séparation précoce et douloureuse.
Ça a été le grand choc.
C'était... Vous vous souvenez des adieux sur le fil d'Oran, mais vous vous souvenez, j'imagine, aussi du trajet que vous a emmené à l'école.
Vous savez, en ce moment, quand je joue maintenant depuis quelques années avec des partitions. J'ai des photos dans les partitions. J'ai des photos de mes parents, j'ai des photos de deux personnes qui me sont très chères, et j'ai les photos de la gare où j'ai fait mes adieux à mes parents, à l'âge de 12 ans. Il y a la photo de cette gare qui est là, toujours avec moi, parce que ça a été terrible. Alors je partais avec un petit magnétophone, j'avais la voix de ma mère, je m'endormais avec la voix de ma mère, et c'était très mal vu là-bas, à la Manuin School.
C'était quoi qui était mal vu? D'écouter la voix de sa mère?
Ah oui, c'est ça. On m'a confisqué ce magnétophone, au bout de deux semaines, trois semaines. Moi, j'ai appris à souffrir là-bas. Et alors moi, vous savez, je suis né en Tunisie, donc on adore la rissa. Et plutôt que d'emmener un petit pot de confiture, j'avais amené un petit pot d'harissa dans mes valises. Et je me tartinais sur ce pain Menuhin, exigé la cuisine macrobiotique que je détesté. On avait du riz brun, du sucre brun, de la farine brune. Tout était dégueulasse. Enfin, bon, c'était affreux. Ils se sont dit, mais this guy is completely crazy. Complètement, il débloque. Ils me l'ont confisqué aussi. J'étais malheureux, malheureux, malheureux. Mais heureusement qu'il y avait des compensations musicales. Avec des grands professeurs, des grands maîtres. C'est vrai que j'ai côtoyé, sans m'en rendre compte, vraiment Nadia Boulanger, qui est une personnalité hallucinante, enfin, mais qui nous effrayait plutôt que de nous émerveiller, parce qu'on était trop jeunes, on comprenait pas, on savait pas. Mais de voir Yehudi Menuhin venir faire jouer le sexteur de Brahms. En fait, il venait roder ses programmes de concert devant les petits jeunes. Maurice Gendron était là. Je me souviens d'un concert de Sextuor de Brahms, inoubliable avec Menuhin, lui. Il y avait Ernest Wallfisch, il y avait des grands, des très très grands musiciens. Et on était là, bon, ça nous a nourris, ça nous a inspirés. Nous étions que 30. J'ai eu des copains qui sont devenus illustres. J'ai partagé la chambre avec un Nigel Kennedy, qui était le grand violoniste et que nous connaissons, et qui était complètement taciturne et complètement introverti à l'époque. Il ne travaillait pas, il était génial. Il passait son temps à mettre les disques de Stéphane Grappelli et de jouer en même temps. Et puis, quand il jouait Concerto de Brahms, il jouait comme un ange.
Thank you.
Quand vous allez terminer ces trois années-là en Angleterre, est-ce que vous diriez que vous vous êtes un peu guéri
de mes parents?
Oui.
Du manque de... Écoutez, oui, mais d'un autre côté...
Vous écriviez beaucoup? Vous écriviez beaucoup?
On s'écrivait des lettres. Maman, je pense, devait écrire un peu comme la maman de La Promesse de l'Aube, des Romain Gary. Elle écrivait peut-être trois lettres par jour, une le matin, une à midi et une le soir. Moi, je répondais, j'étais un petit peu plus paresseux, je répondais une fois par semaine. Et surtout, j'avais l'autorisation d'aller chez le directeur à 18h30 le vendredi pour recevoir un appel de mes parents. Mais j'attendais ce moment. Je crois que j'étais absolument irrécupérable, tellement j'étais attaché. Alors, ça devenait assez dur pour moi. Donc, Vlado Perlmutter, Marcel Ciampi et Denise ont décidé de me retirer de l'école. Ils ont dit, il est temps, on le présente au Conservatoire de Paris, il rentrera tout de suite.
Et ça, vous partez finalement quand vous avez 16 ans.
J'avais 16 ans.
Quasiment à la fin où tout le monde part.
Voilà, mais j'aurais pu rester un peu plus. Oui, parce que c'était une année où il y avait des tas de portes ouvertes pour moi. Menuhin allait me faire jouer aux États-Unis, il allait me faire jouer dans des très grandes salles ou au Festival de Bath. Et puis, je n'ai pas pu. Mais j'ai quand même joué dans un festival que je n'ai jamais oublié, le festival de Benjamin Britten à Aldeburgh, si on le prononce à la française. J'ai joué devant Benjamin Britten et devant Peter Pears. J'ai été bercé à cette époque pendant les 3 ans en Angleterre. J'écoutais tout le temps Le Voyage d'hiver, la Belle Meunière par Peter Pears. Pour moi, la dernière scène, non pas dernière, je pense toujours en cinéma, là. Le dernier lead de La Belle Meunière par Peter Pears et Britten au piano, mais c'est quelque chose d'inouï, exceptionnel, de beauté, le temps s'arrête, on pleure. Et alors, je me souviens, j'ai joué pour eux du Roussel, là-bas. J'avais joué le premier livre d'images de Debussy, et Roussel. Et je me souviens, ils étaient venus en me disant « Quelle musique magnifique !» Et je n'ai plus jamais rejoué cette ronde de Roussel qui est tellement pimpante et un petit peu teintée d'harmonie à la Stravinsky. Très Petrouchka français.
Vous avez parlé de la voix de votre mère, vous avez dit que vous-même vous chantiez, on sent que vous avez aussi un amour des voix, ici vous évoquez Peter Pears. C'est quelque chose d'important pour vous, ces voix?
Oui, c'est important parce que finalement, on m'a mis au piano et grâce à mes professeurs, je pense grâce à Denise et les années suivantes, parce que je suis rentré au conservatoire grâce à Dominique Merlet, et les années plus tard, grâce à Paul Badaud-Rascoda, ce sont des personnes qui m'ont inculqué l'art de jouer avec le gras du doigt et de ne pas jouer avec une main juste un petit peu sèche et ou l'articulation normale, mais de sentir une adhérence telle qu'il y a une projection sonore qui se crée et on peut devenir à ce moment-là chanteur. quand on arrive à timbrer, c'est ce qui me passionne, moi, dans le piano, c'est qu'on oublie tout de suite que le piano soit un instrument à marteau ou à percussion, et que l'on arrive à faire du cantabile, à faire du bel canto, à chanter, voilà. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, je suis entré au conservatoire, et évidemment, le bagage était assez riche, puisque je suis rentré tout de suite. Et il y avait les rapports entre mon père et ma mère qui se sont vraiment détériorés. Et là, j'ai commencé à avoir beaucoup d'angoisse, parce que j'ai senti que ça tiendrait pas et que c'était fini. Donc, j'avais un peu peur de ce qui allait se passer. Et quand je suis entré au conservatoire, j'étais en pension à Versailles, chez deux vieilles demoiselles qui auraient pu être charmantes. Elles ressemblaient un petit peu à Arsenic et Vieille Dentelle, mais elles n'étaient pas du tout. Elles étaient deux vieilles bigotes très, très dures, qui m'ont mené la vie assez dure. Elle m'empêchait d'aller au cinéma, elle m'empêchait de faire ci. Il y avait quelques filles et quelques garçons dans le même petit pavillon versaillais. Interdiction de parler à une fille. Interdit, il fallait, mais c'était invraisemblable. Alors moi, j'écrivais à mes parents, j'aurais dit, je vous en prie, vous déménagez, vous venez vivre à Paris. Je vous en prie. Mes parents sont donc venus à Paris.
Donc finalement, ils ont accédé à votre vœu.
Ils ont accédé, mais ça s'est mal terminé pour eux. Mon père s'est mis à la retraite anticipée, mes parents se sont séparés, et mon père a eu une attaque, une grave hémiplégie. Il est resté 23 ans dans une chaise roulante. Mes parents étaient séparés. Alors que tout se goupillait très bien, et moi j'étais quelqu'un de solide, j'avais le zeste de nervosité, mais qui était parfait pour l'aspiration. Mais à partir du moment où mon père a eu son hémiplégie, il y a eu quelque chose qui s'est ouvert en moi, il y a eu une plaie, et je suis devenu assez fragile, pour le coup. Très fragile. J'ai eu des blocages psychologiques sur des pièces, sur des morceaux que je n'ai plus jamais rejoués. J'ai eu le trac dévastateur, et il a fallu lutter pendant des années pour pouvoir nettoyer ce genre de choses. J'avais beau prendre de l'eau de fleur d'oranger sucrée que ma mère me faisait, du ginseng, rien, ça ne faisait rien. Après, j'ai essayé les bêta-bloquants. Une fois sur trois, ça fonctionne, mais ça fonctionnait en rien. Je me suis aperçu au fil des années que c'était les problèmes familiaux et les problèmes personnels qui agissent directement sur notre organisme, sur notre vie, on joue comme on est.
France Musique, les grands entretiens de Jean-Marc Louisanda.
Ma première année au conservatoire, j'ai vu des concerts exceptionnels. Je me souviens avoir vu d'abord l'un des plus beaux récitals de Hepzibah et Yehudi Menuhin à la faculté de droit, quand il y avait des concerts à la fac de droit. Quelque chose comme je n'ai jamais entendu. Je ne l'ai jamais entendu rejouer aussi bien. Il a fait la plus belle sonate à Kreutzer de ma vie. Et puis, je me souviens, j'ai entendu Igor Markevitch avec Claudio Arrau, deuxième concerto de Brahms au Théâtre des Champs-Élysées. Ce sont des concerts absolument fulgurants de beauté, historiques d'ailleurs. Historique. Donc, qui m'ont inspiré, qui m'ont motivé. Je me suis dit, bon, allez, on fait pas ça pour rien. C'est pour.
Il y a eu des moments où vous étiez découragé.
Ah oui, oui, oui. Surtout, bon, je suis entré chez Dominique Merlet, qui était tout jeune, merveilleux pianiste, mais jeune pédagogue. Il faisait très, très peu de compliments. Quand il disait que c'était pas mal, c'est que c'était vraiment formidable.
Vous aviez besoin, vous, des copains?
Ah ben moi, je sortais des jupes de Denise Rivière, de Marcel Ciampi, qui n'arrêtait pas de me dire « Mon coco, on t'adore ». Mais ce que j'adore chez Dominique Merlet, c'est sa rigueur, son honnêteté. Dominique Merlet me laissait toujours travailler avec Marcel Ciampi, parce qu'il avait une grande admiration pour ce grand maître. Et je me souviens, j'allais entrer en troisième cycle au conservatoire, je travaillais le trombeau de Couperin. Et il était 19h, et soudain, on sonne à la porte, et Marcel me dit « Ah, c'est Vlado ». J'ai dit « Vlado Perlmutter ?» Il dit « Oui, il vient prendre sa leçon ». Je n'en revenais pas. Je vois Vlado Perlmutter entrer avec un petit cartable, il était là, et il me dit « Ah, bonjour Jean-Marc, est-ce que vous me permettez que j'écoute ?» J'ai joué pour lui la Toccata de Ravel. Et puis il m'a dit, bon, écoutez, maintenant, vous allez nous laisser, parce que je viens prendre mon cours. Et je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, je vais jouer au Queen Elizabeth Hall à Londres dans 4 jours. Donc je viens jouer à Marcel tout mon programme. Mais j'ai trouvé ça tellement beau, tellement... Quelle leçon grandiose! Et encore aujourd'hui, j'y pense. Et je me dis, il y a tellement de musiciens qui ne se jouent plus entre eux, alors qu'il faut, pour pouvoir et se faire critiquer et être inspiré par des témoignages fabuleux comme ça. Eh bien, des années après, j'ai lu dans les mémoires d'Arao, mais il dit dans un livre d'entretien qu'il était allé au Queen Elizabeth Hall et qu'il a écouté le plus beau récital de sa vie par Vlado Perlmutter. Mais je me suis dit quand même, c'est fou.
Denise Rivière et Marcel Ciampi, ils vous nourrissaient aussi de ces interprètes du passé.
Alors,
est-ce que on apprend par les professeurs, mais on apprend par le disque, par le concert.
Voilà, par le disque, mais aussi par leur vie. Donc, Marcel avait 2 sœurs. Une sœur qui était une immense cantatrice, que j'ai connue après. Gabrielle Ritter Ciampi, c'était la plus grande Pamina du siècle. Et une autre sœur qui était une orthophoniste fabuleuse, qui s'appelait Madeleine Ciampi, qui avait été l'orthophoniste de Giscard d'Estaing. Elle essayait de corriger toute sa prononciation avant de grands discours. Et Ciampi avait un fils, Yves Ciampi, cinéaste, qui avait épousé une comédienne japonaise, qui était Kishi Keiko, qui avait joué dans les plus grands films de Ozu. Donc, ils m'ont un petit peu inspiré. Mais Denise, elle avait... dans sa famille. La famille de Denise Rivière, c'est la famille de Roger Martin Dugard. Toute la famille de Denise Rivière, ce sont les Thibault. Cette fresque génialissime que je relis toujours avec tellement d'émotion. Donc, pour l'inspiration, je peux vous dire que, comme Denise avait dit à maman, « Allez, maintenant, il va falloir lui faire son éducation à ce petit... » vous allez le réveiller le matin en écoutant, parce que je ne connaissais rien. Je disais, oh ben vous savez, j'aime pas Ravel, j'aime pas Debussy. Je ne connaissais même pas une note de ces compositeurs. Et on dit, tu connais pas, ben tu vas voir comment tu vas pas connaître. Et donc, le matin, à 6h30, maman me réveillait. J'avais 9 ans, 10 ans. J'avais droit, avec mon café au lait, avec mon pain trempé dans le café, à écouter du Bartok, la valse de Ravel. Elle me disait, oh, tu sais, ça, tu vas aimer. Moi, quand j'écoute ça, j'en ai mal au ventre. Mais Mais c'est vrai que moi, ça me faisait mal au ventre aussi. Tellement c'est beau, tellement je connaissais pas du tout. Même Rhapsody in Blue de Gershwin, que je dois jouer ces jours-ci, c'était de la musique qui m'était quasiment inconnue. Et bien sûr, il y avait des pièces de Corelli, il y avait des grandes messes de Bach. Et j'ai eu mon éducation comme ça.
Vous avez dit que vous aviez un frère.
Alors, j'ai un frère et que j'ai toujours.
Qui est
un scientifique.
Grand,
oui, il a 7 ans de plus que moi. Il est scientifique. Il est devenu professeur agrégé de physique et de chimie. Mais avant, dans cette époque, il était des chemins de Katmandou. Donc, il en a fait voir beaucoup à mes parents. Il venait à Alès, petite ville de province, qui était quand même tous les ragots où tous les gens regardaient derrière les fenêtres. Hein. Il allait voir ma mère dans sa classe avec des cheveux longs jusqu'aux épaules, des peaux de bête jusqu'au parterre, du henné partout, et je parle pas du shit. Enfin, probablement, il en avait, ça empestait le shit. Et alors, maman disait à mon père, je suis sûr qu'il prend des choses, tu sais. Et papa disait, mais non. Et évidemment, Gérard, quand on en parle aujourd'hui, il rigole, parce que c'est vrai, il était avant-gardiste, mon frère.
Et vous donnez le goût d'autres musiques, alors, parce que ça
alors,
va avec.
Vous avez écouté Let It Be, les Beatles, les Pink Floyd. Alors ça, maman adorait cela.
Vous avez dit que vous étiez irrécupérable quand vous étiez enfant et en même temps, vous avez dit « j'étais très solide jusqu'à l'accident de votre père ». Vous aviez conscience que vous étiez fort comme ça quand vous étiez jeune ?
Oui, parce que je faisais les concours, les petits examens, sans l'ombre des difficultés. Et bien sûr, je travaillais énormément, mais tout se passait bien. Mais à partir du moment où il y a eu cette faille, cet accident terrible, et puis aussi la mort de ma grand-mère, que j'ai vue mourir devant moi à 9 ans, je me suis mis à avoir peur de perdre la mienne, ce qui est tout à fait normal. Et puis, évidemment, quand cette tuile nous est arrivée, mon père, ne pouvant plus communiquer, ne pouvant plus parler, est arrivé à créer un langage avec une main, une seule main, et avec quelques sons qu'il arrivait à sortir. Et alors, quand j'ai commencé à jouer, je devais avoir 27 ans, j'ai fait en sorte de l'amener à tous mes concerts avec un infirmier. Et alors, il me disait comme ça, et ça me touchait. Alors, il y a eu combien d'élèves dans la salle? Et moi, ça me fait pleurer toujours. Toujours, parce que pour lui, les élèves, c'était le public. Il fallait comprendre ce qu'il voulait dire. Et ça a été dur, mais enfin bon, c'était comme ça, et puis je crois qu'il était heureux.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be.
Le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Jean-Marc Louisada se referme avec les Beatles. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Sébastien Huel, mixage Mathieu Leroux, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr et l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.